RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Salut Fabrice.
Bonjour Christophe.
Comme ça sent bon aujourd'hui. C'est pas vous, hein, c'est Alicia Bruni qui est à la technique, je vous rassure. On va parler de la grande histoire du parfum en compagnie de l'anthropologue, philosophe, historienne, spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum, c'est Annick Le Guerrer. Elle a notamment publié Les pouvoirs de l'odeur ou le parfum des origines à nos jours chez Odile Jacob.
Oui Christophe, et c'est vrai que de la mythique sueur des dieux, des embaumeurs égyptiens aux étuves aromatisées de Saint-Louis, en passant par les gants odorants de Catherine de Médicis ou la folie parfumée de Louis XIV qui va virer à l'allergie, bien on va partir aujourd'hui pour un grand voyage olfactif avec comme guide de luxe la plus grande experte, nous n'avons pas peur de le dire dans cette émission, elle est reconnue comme telle en France, de cette question de l'histoire des parfums, Annick Le Guerrer, vous l'avez précisé. Et pour tout dire, c'est un vrai honneur que de l'avoir à nos côtés. On sait en effet que notre invité a contribué, hein, par ses recherches et ses publications, à rendre ses lettres de noblesse à un sens, celui de l'odorat donc, hein, qui était considéré longtemps comme inférieur, voire animal et sexuel. Et pour autant, elle a travaillé dessus depuis toujours dans ses travaux. Donc permettez-moi aussi de vous faire une confidence, je ne fais pas souvent dans cette émission, sur les 200 invités qu'on a eu la chance de recevoir à Galéa, celle dont on nous parle le plus depuis quelques années maintenant, c'était l'intervention d'Annick Le Guerrer qu'on retrouve tout de suite.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Annick Le Guerrer.
Bonsoir.
Bonsoir Annick.
Merci d'être avec nous dans C'est votre jour de science. On peut dire Annick que le berceau historique de la parfumerie est en Égypte.
Oui, c'est l'Égypte antique et le berceau de la parfumerie. Et la première fonction du parfum, c'était d'honorer les dieux. Et les premiers parfums ont été faits par les prêtres égyptiens dans l'enceinte des temples. Il préparait des compositions comme le kifi, et on a une formule de ce parfum qui date de 16 siècles avant Jésus-Christ. C'était un parfum que l'on brûlait, et la fumée en s'élevant vers le ciel, pour les Égyptiens, établissait une communication verticale entre les dieux et les hommes. Et le mot parfum vient du latin perfumum, qui s'élève à travers la fumée. Et l'Égypte a été le berceau de la parfumerie, en effet, et ensuite, les parfums qui étaient composés pour honorer les dieux ont été diffusés dans la population et sont devenus aussi des parfums profanes.
Et il y a quelque chose aussi d'intéressant quand on lit vos travaux, Annick, et quand on reste un tout petit peu au pays des pharaons, c'est de parler de l'antie. Alors, je ne sais pas si je le prononce
l'antie,
bien.
L'antie, vous le prononcez très bien.
La sueur des dieux.
Et à la fois l'encens et la myrrhe, et les Égyptiens pensaient que l'encens et la myrrhe venaient de la sueur des dieux, de la transpiration des dieux, parce que pour les populations antiques, le parfum avait une origine divine. C'était un produit de grand luxe, et donc c'était assimilé pour eux à quelque chose de divin. Et ça montre bien aussi combien le parfum a été un produit très très précieux. Aujourd'hui, il s'est démocratisé, mais pendant des siècles, il n'était accessible qu'à des tranches de population très fortuné.
Et quand on vous entend parler de cette époque lointaine où hein, on embaumait notamment pour que le parfumé, hein, celui qui décédait, partait vers un nouveau monde grâce à notamment la gomme, à des résines. On parle de quoi à l'époque? De fleurs de lotus, de joncs, de narcisses? On a aussi des importations.
Alors, pour embaumer les morts, on n'utilisait que la cannelle et la myrrhe. Et on faisait des onctions de compositions parfumées qui contenaient de l'encens. Mais les parfums qui étaient destinés aux profanes comportaient aussi des produits floraux comme le genêt, comme le lotus. Mais l'Égypte n'avait pas beaucoup de produits aromatiques odorants. Elle devait les importer de pays étrangers, notamment d'Arabie, d'Inde, et de l'Est de l'Afrique.
Et si on avance un tout petit peu dans l'histoire, et si vous le permettez, Annick Le Guerrer, quand on lit vos ouvrages également, on tombe sur des citations très intéressantes. Je pense à celle de Pline l'Ancien, par exemple, pour arriver vers Rome maintenant, qui disait 100 millions de sesterces par an que l'Inde, les Chinois et la péninsule arabique soustraient à notre empire. Voilà ce que nous coûte le luxe et nos femmes. À Rome, les parfums étaient très importants.
Alors, la Rome impériale a connu une période très parfumée. Les Romains étaient fous de parfums. Ils parfumaient même leurs chiens, leurs chevaux. Ils parfumaient leurs murs, la plante de leurs pieds. Et toutes ces importations de matières aromatiques qui venaient, comme vous l'avez souligné, de pays lointains comme l'Inde, inquiétaient certains dirigeants latins, enfin certains intellectuels latins comme Pline l'Ancien, qui pensaient que c'était des dépenses considérables et qu'elles allaient ruiner l'Empire. Et Pline l'Ancien, comme d'autres intellectuels de son époque, voyait aussi dans cette consommation effrénée de parfums une menace de décadence pour l'Empire romain, parce que les soldats se parfumaient sous leurs casques, parfumaient leurs étendards, et ils voyaient une dévirilisation de l'Empire, qui avait fondé sa force sur des vertus d'austérité et d'économie. Et donc cette menace de décadence, qui est soulignée au 1er siècle, notamment par Pline l'Ancien, va s'avérer notamment prémonitoire, parce qu'en 470, l'Empire romain est envahi par des hordes barbares, et au 5e siècle, l'Empire romain va s'effondrer. Donc, vous voyez que cette consommation effrénée de parfums n'est pas la cause directe, peut-être, de la décadence de l'Empire romain, mais y a participé.
Annick Le Guerrer, tout un quartier situé à Rome, même près de la Via Sacre, est occupé par les parfumeurs.
Voilà. Et les parfumeurs, à cette époque, on les appelait les travailleurs de l'encens. Ça montre bien combien l'encens, l'Oliban, plus précisément, a tenu une place primordiale dans la parfumerie. Ça a été le premier parfum, le parfum originel. Ce parfum, justement, qui établissait en se consumant une communication avec les dieux.
Là, on est avec vous en plein cœur de Rome, vous le précisiez, avec Néron aussi, hein, quand on vous lit, on le découvre, des colombes aux plumes imprégnées d'encens, enfin d'essence rare, hein, qui s'échappent de plafond.
Bien sûr, il y a eu, comme je vous le disais, une consommation effrénée de parfums, et Néron en est un bon exemple, parce que dans ses palais, il faisait brûler énormément d'encens, et notamment dans sa salle à manger de sa maison dorée, les plafonds étaient constitués de lamelles d'ivoire percées, mobiles, et à travers les trous de ces lamelles, il faisait déverser des parfums sur ses invités. Et il lâchait aussi dans les salles de banquet des colombes dont on parfumait les ailes pour qu'en voltant, elles parfument la salle. Et Néron a été un très grand consommateur de parfums. À la mort de sa femme Poppée, qu'il avait lui-même tuée alors qu'elle était enceinte en lui donnant un grand coup de pied dans le ventre, il a brûlé plus d'encens que l'Arabie ne pouvait en produire en un an. Donc vous voyez les dérives de cette consommation de parfums. Un peu plus tard d'ailleurs, Héliogabale fera encore presque plus fort que Néron, parce que lui, il étouffait ses invités en leur versant sur la tête des pétales de fleurs dans sa salle à manger.
Bon, c'est charmant ce...
Il mourait étouffé, mais enfin dans le...
C'est charmant, les hôtes de cette époque, Christophe qui est à côté de moi, pourrait aussi avoir des colombes parfumées qui s'échappent de son salon quand il invite des gens, ce serait une bonne idée pour...
Oui, pour... Si vous voulez vous amuser à ça,
on va essayer.
Oiseaux, peut-être que vous pouvez parfumer.
Vous avez raison, on a des Milan royaux qui feraient bien l'affaire avec de grandes ailes. Annick, si on continue un petit peu à remonter cette histoire, vous l'avez évoqué, la fin de l'Empire romain d'Occident, on parle parfois de royaume barbare de ce moment-là, et c'est une régression pour les parfums à ce moment-là?
Alors, la parfumerie va s'exiler dans l'Empire byzantin, et donc c'est Byzance qui va prendre la relève, mais il y a évidemment en Occident un effondrement de la parfumerie, et seuls les parfums qui sont destinés à honorer les dieux sont autorisés. Et c'est la montée aussi du christianisme qui considère que le parfum est une arme de séduction, et les pères de l'Église demandent aux femmes de ne pas se parfumer pour ne pas justement faire tomber dans le péché les hommes. Et Tertullien, au IIe siècle, pour dissuader les chrétiennes de parfumer leur chevelure, leur annonce même que si elles parfument leur chevelure, elles risquent de devenir chauves et folles, vous voyez. Néanmoins, toutes les chrétiennes n'obéiront pas au Père de l'Église et continueront à porter des parfums, mais il y a quand même un effondrement de la parfumerie à partir de cette époque en Occident. Et au Moyen-Âge, véritablement, seuls les parfums sacrés et thérapeutiques auront la cote, parce que avec l'arrivée justement des grandes épidémies comme la peste, ce qui va se développer surtout, c'est une parfumerie thérapeutique.
On parle de la grande histoire du parfum aujourd'hui dans C'est votre jour de science. Notre invitée, l'anthropologue, philosophe, historienne, spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum, Annick Le Guerrer.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir. Imagine notre espoir, on laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin,
jasmin,
lilas,
lilas,
c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutait en rêvant la petite fille autour de disques folles.
Le parfum, imagine le parfum, l'Éden, le jardin, c'était pour demain.
Mais demain, c'est pareil.
Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs.
Qu'il y aura des foulards, des chemises, que voici les couleurs vives. Même si l'amour est parti, ça n'est que partie remise.
Les couleurs, les odeurs, les parfums.
Changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras,
tu verras,
tu verras,
tu verras.
Le pouvoir des fleurs. Changer tout ça.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour.
Une chanson qui sonne très bon, comme notre émission aujourd'hui, c'était Les Enfoirés, le pouvoir des fleurs.
C'est votre jour de science. L'expert.
Et oui Fabrice, on parle de la grande histoire du parfum aujourd'hui. Notre invitée c'est Annick Le Guerrer, elle est anthropologue, philosophe, historienne, spécialiste de l'odorat, des odeurs, du parfum. Elle a aussi publié des ouvrages, Les pouvoirs de l'odeur ou Le parfum des origines à nos jours, deux ouvrages parus chez Odile Jacob. Vous nous parliez Annick Le Guerrer avant la pause musicale du Moyen-Âge, c'est aussi le moment où les élites prennent des bains parfumés sous forme d'étuves.
Enfin jusqu'au Moyen-Âge. Jusqu'en 1348, les gens aisés prenaient des bains parfumés dans des endroits qu'on appelait les étuves. Aujourd'hui, on dirait bains publics. Mais à partir de l'arrivée de la grande peste de 1348 qui décime le quart de la population en Europe, les médecins commencent à déconseiller de se laver avec de l'eau chaude parce qu'ils pensent que l'eau chaude ouvre les pores de la peau et que les mauvaises odeurs peuvent pénétrer dans le corps et corrompre les organes et apporter des maladies. Donc, ils préconisent de se laver avec des parfums. Alors évidemment, ça va amener un développement de la parfumerie prophylactique et thérapeutique. Et cette façon de se laver avec des parfums n'est accessible évidemment qu'aux gens fortunés. Les gens du peuple se lavent avec des vinaigres aromatisés au thym, à la marjolaine, à la sauge, au jonc, mais n'ont pas accès justement à ces produits coûteux que sont les ingrédients aromatiques que l'on trouve dans les parfums de cette époque.
Et est-ce qu'on a ensuite, Annick Le Guerrer, par exemple, et on est obligé malheureusement sur quelques minutes d'émission, et on sait qu'on pourrait vous garder des heures, hein, et vous écouter des heures, on est obligé de faire des raccourcis, est-ce qu'après on arrive à une certaine Catherine de Médicis qu'on connaît bien, qui va importer de nouvelles choses en Europe? Je pense aux gants parfumés.
Bien sûr, Catherine de Médicis, qui faisait partie de cette famille qui régnait sur Florence, est arrivée en France avec son parfumeur René le Florentin pour épouser le futur roi de France, Henri II. Et donc, elle a importé la mode italienne du parfum, parce qu'à cette époque, à l'époque de Catherine de Médicis, c'était l'Italie qui tenait la première place dans la parfumerie en Europe. Et notamment, elle a importé la mode des gants parfumés. Et ces gants parfumés vont s'imposer en France, notamment à Grasse, où il y avait déjà des tanneurs et puis des plantes aromatiques. Donc, pour faire des gants parfumés, c'était absolument de bonnes conditions. Et si vous allez à Grasse, vous verrez même la maison où s'est arrêtée Catherine de Médicis. Et donc, à Grasse, les tanneurs ont commencé à parfumer les peaux et à devenir des gantiers parfumeurs. Et ces gantiers parfumeurs vont s'implanter aussi à Paris, bien sûr, et les gantiers parfumeurs vont donner à la parfumerie française un grand élan, parce que c'était une profession qui était très codifiée, qui avait des statuts particuliers, qui était protégée par Louis XIV, parce que Louis XIV aimait beaucoup le parfum et il voulait que la parfumerie ait un grand avenir, il voulait qu'elle se développe en France. Et donc les gantiers parfumeurs protégés par Louis XIV et par son ministre Colbert vont développer la parfumerie française et la France va devenir, au siècle suivant, la première parfumerie en Europe.
Juste, si vous le permettez, Annick Le Guerrer, parce qu'on sait que vous avez bien étudié cette époque, d'ailleurs des conférences et des ouvrages ou des écrits sont consacrés dans vos travaux à celle-ci, à Versailles, hein, vous parliez de Louis XIV, le plus doux fleurant, un passionné de parfum qui est quasiment devenu allergique, je crois. Que sentait Versailles à cette époque? Il n'y avait pas de latrine, ça sentait bon ou très mauvais?
Alors, à Versailles, il y avait des odeurs très contrastées. Il y avait évidemment beaucoup de mauvaises odeurs, parce que les latrines étaient quasiment inexistantes, les salles de bain aussi, et les courtisans se soulageaient derrière les rideaux, dans le parc. Donc on peut imaginer que le palais était quand même, le château était quand même envahi de mauvaises odeurs. Et comme à cette époque, on avait extrêmement peur des mauvaises odeurs qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les médecins pensaient que les mauvaises odeurs rentraient dans le corps et apportaient des maladies, les courtisans et les serviteurs étaient enveloppés d'onguents aromatiques, de parfums, pour se protéger des mauvaises odeurs. On luttait contre les mauvaises odeurs avec beaucoup de bonnes odeurs. On faisait brûler des parfums dans le château de Versailles et tous les courtisans utilisait énormément de parfums. Louis XIV en a utilisé beaucoup, surtout qu'il adorait les parfums. Il regardait ses parfumeurs lui composer ses parfums pour lui et ses maîtresses. Et il en a tellement abusé du parfum que dans la dernière partie de sa vie, il était devenu allergique aux parfums et il ne pouvait plus supporter que les courtisans en portent. Alors, il ne pouvait supporter, Louis XIV, à cette époque, que le parfum de la fleur d'oranger qui calmait ses migraines. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Versailles, il y avait une orangerie. Et donc, cette surconsommation de parfum par Louis XIV l'avait rendu allergique, en effet.
Dans cette grande histoire du parfum, Annick Le Graire en avance dans le temps. On s'arrête à présent au XIXe siècle. Le XIXe siècle sera celui du parfum désincarné, de la parfumerie industrielle sur la base de produits de synthèse.
Alors le XIXe siècle marque une grande étape aussi dans la parfumerie. C'est l'arrivée des molécules chimiques dans les formules de parfum. Parce que les ingrédients aromatiques coûtent très cher. En plus de ça, lorsqu'il y a des cyclones ou des inondations, les récoltes de produits aromatiques peuvent être absolument détruites. Et les chimistes avaient la possibilité, en copiant la nature, de proposer aux parfumeurs des molécules qui imitaient les ingrédients aromatiques dont ils se servaient pour faire leur parfum. Notamment la vanille, elle est imitée par des chimistes qui proposent aux parfumeurs un produit de synthèse qu'on appelle la vanilline. La fève tonka aussi est remplacée par la coumarine. Et donc vous voyez, le remplacement des produits naturels par des produits chimiques permet aussi, parce que les produits chimiques étaient moins chers, d'abaisser le prix des parfums et de démocratiser la parfumerie. Alors à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la parfumerie va se démocratiser avec l'introduction de molécules de synthèse dans les formules, et cela va permettre aux classes moyennes d'accéder à la parfumerie sans se ruiner.
Et peut-être que parallèlement, on va sortir du coup du sacré, hein, qui auréolait ce parfum, vous l'avez raconté depuis toujours, peut-être un petit peu de la thérapeutique et de l'hygiène avec quelques avancées. François Coty, c'est intéressant d'en parler puisqu'on a pour régionaliser aussi un peu le propos, vous avez travaillé sur son parcours?
Bien sûr, François Coty, qui est un grand parfumeur né en Corse, a joué un très grand rôle dans la parfumerie française. Il est né en 1874. Il avait d'ailleurs dans sa famille une cousine germaine qui était une cousine de Napoléon Ier. Et lorsqu'il est arrivé à Marseille avec sa grand-mère, parce qu'il a perdu sa mère très tôt et son père, il n'en a plus entendu non plus parler très vite. Lorsqu'il est arrivé à Marseille et ensuite à Paris, Il a été en contact avec un ami pharmacien qui préparait son eau de Cologne tout seul. Et alors qu'il était venu à Paris pour faire de la politique, il a été séduit par la parfumerie et il a voulu se vouer au parfum complètement. Il avait visité l'exposition universelle et avait été déçu par la parfumerie française qui était proposée, et il voulait faire des produits audacieux et abordables à toute femme, quelle que soit sa condition sociale. Il voulait une parfumerie artistique, mais abordable. Et donc ça a été une grande étape dans la parfumerie parce qu'il a démocratisé une parfumerie artistique.
Alors vous parliez d'étapes, Annick Le Graire, évidemment aujourd'hui on le sait tous, hein, on est dans des produits notamment abstraits, en tout cas avec beaucoup de suggestions, des objets marketing, hein, quand on parle de parfums du 21e siècle, de la grande distribution aussi, de la mondialisation pour ce produit. Néanmoins, vous aimez aussi mettre en avant, de la parfumerie de niche, des nouveaux indépendants, et vous parlez souvent d'un Ajaccien également, hein, très contemporain évidemment, très actif.
Marc-Antoine Corticiato, vous pensez à ça, non ?
Oui, Corticiato, bien sûr, qu'on connaît bien dans notre île, et qui est un fleuron pour ceux qui connaissent cette matière, hein, au niveau de la parfumerie, au niveau international.
Marc-Antoine Corticiato est un parfumeur corse. On parle bien de la même chose.
Oui, hein, bien sûr. Je sais que vous en parlez souvent dans vos conférences, c'est pour ça que je me permettais
souvent
de...
Souvent, parce qu'il a beaucoup de mérite. Depuis l'an 2000, il élabore une parfumerie indépendante, sans l'appui de grands groupes, donc il est tout à fait libre de composer comme il veut, avec les produits qu'il veut. Et c'est un garçon qui connaît très très bien les matières aromatiques, qui a beaucoup de talent et qui fait des produits de création. Il ne fait pas des copies de succès, il n'obéit pas à des consignes marketing pour faire de la rentabilité immédiate. Et donc, il en ce moment, il est véritablement en train d'acquérir une reconnaissance internationale. Et j'en suis très heureuse pour lui parce qu'il a beaucoup de talent.
La grande histoire du parfum, on a évoqué cette belle histoire passionnante avec vous, Annick Le Guerrier. Merci beaucoup, ce fut un plaisir de vous avoir. On rappelle que vous êtes anthropologue, philosophe, historienne, spécialiste de l'odorat des odeurs du parfum. Vous avez publié également des ouvrages, Les pouvoirs de l'odeur ou Le parfum des origines à nos jours chez Odile Jacob.
Oui, puis je me permets de préciser parce qu'elle est très active également sur son site internet avec beaucoup d'articles de fond. Pour nos auditeurs, si vous tapez évidemment Annick Le Guerrier et que vous voulez en savoir plus, parce que comme nous, ça vous a passionné, allez sur son site internet.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Annick Le Guerrier, à très vite.
C'est votre jour de science dans l'actu.
C'était chouette, non, ce parfum?
Impeccable.
Hein, bon.
Mais ça sent pas pour autant meilleur dans le studio.
Ouais, et je veux dire, ça va même être pire avec la chronique qui est la mienne et qui commence par un petit quiz à votre attention, évidemment. D'après vous, y a-t-il plus de bactéries sur votre portable ou sur la cuvette de mes toilettes?
Alors, je pense que c'est le portable, parce que j'avais entendu dire que sur un clavier, il y avait beaucoup plus de bactéries que sur une cuvette.
Ouais. Alors, imaginez ça. C'est forcément sur votre portable, hein, qui a le plus de bactéries. D'ailleurs, sur le portable de tous ceux qui nous écoutent également et qui saisissent, en moyenne, ce mobile 150 fois par jour dans leurs mains. Du coup, ce ne sont pas moins de, et là, le chiffre a augmenté ces derniers mois, 17 000 bactéries qui se baladent quotidiennement sur nos petits écrans, soit 10 fois plus que dans nos WC. Des bactéries très à l'aise sur un portable qui dégage une chaleur tempérée à souhait, une bonne partie du temps d'ailleurs confortablement lovée au chaud. Ça va bien aussi pour les bactéries dans notre poche ou notre sac. Elles se développent parfaitement avec ce microcosme, ce biotope. Alors salmonelle, streptocoque, staphylocoque doré, voilà le magnifique zoo microscopique qui vit avec nous sur nos petits écrans en permanence. Avec en plus, ont noté les scientifiques dernièrement, une invitée plutôt inattendue dans cette ménagerie, la bactérie E. coli, fréquentant selon les études un portable sur six ont cette bactérie, qui est normalement celle qu'on retrouve dans les matières fécales personnelles des utilisateurs, qui du coup ne doivent pas trop se laver les mains avant de renvoyer un texto. En tout cas, c'est la science qui le dit.
Ah ben bravo. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez intelligent, Fabrice?
Non.
Oui.
C'est gentil, mais non.
Alors figurez-vous que l'intelligence aide, pour être très simple, à passer à l'acte. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Non, dites. Hein. Précisez, du moins.
Si et seulement si, Fabrice, vous êtes une perruche.
Ouais.
C'est pas votre cas. Alors figurez-vous que...
Je sais pas du tout où vous allez en venir. Hein.
Les perruches, ondulées, mâles, sachant résoudre des puzzles compliqués, attirent davantage les femelles que leurs congénères, figurez-vous.
D'accord.
Une équipe de chercheurs hollandais a conduit une expérience cherchant à déterminer si les perruches, ondulées, femelles sont plus attirées par les mâles démontrant des capacités cognitives supérieures en étant, par exemple, capables de résoudre des problèmes complexes.
Bon.
Les spécialistes expliquent avoir placé 17 perruches femelles à l'intérieur de cages individuelles, entourées de chaque côté par des volières accueillant des mâles, 34 en tout, plus on est de fous, plus on rit, hein, ouais. Vous le savez bien.
Ouais.
Et puis, ils ont calculé le temps que chaque femelle passait près de la volière d'un mâle plutôt que d'un autre et ont ainsi déterminé un partenaire préféré. Les chercheurs ont ensuite retiré les mâles de leur cage et ont enseigné aux volatiles et conduit deux méthodes permettant d'ouvrir des boîtes contenant des graines, dont une particulièrement complexe nécessitant de résoudre trois étapes. Puis ils ont replacé les mâles près des femelles, non sans proposer à chaque volatile masculin de résoudre les deux puzzles, le tout sous le regard attentif bien sûr des femelles. Et sans surprise, les mâles entraînés ont réussi le test là où les autres s'échinaient sans succès. Et face à cette démonstration de force cognitive, les femelles se sont très nettement rapprochées des mâles précédemment congédiés, mais visiblement plus doués. Alors Fabrice, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous transformer en perruche ou bien être imbattable sur la résolution de puzzles en un temps record.
Faire des puzzles comme nouvelle technique de drague, c'est mortel.
C'est pas mal quand même.
Ouais, j'aurais pas... Déjà le Scrabble, je pensais que c'était ringard, alors les puzzles...
On réécoute bien sûr sur cette émission sur bleurcfm.fr. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, avec un bon parfum. Qu'est-ce que vous mettez vous? C'est quoi votre... Moi j'en ai pas. Moi c'est naturel. Pas, du muscle.
Vous c'est quoi? C'est cactus du Pargalais.
Je me frotte contre un cactus et ça fait l'affaire.
Merci Fabrice. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Ciao.